Je vais vous lire, pour éclairer la prédication de tout à l'heure, la fin du sermon sur la montagne ou du sermon dans la plaine, selon l'évangile de Luc, au chapitre 6, à partir du verset 27. Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous font injure. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et contre celui qui t'enlève ton manteau, ne défends pas même ta tunique. Le texte qui fera l'objet de la prédication, qui est la suite de ce sermon sur la montagne, au chapitre 7 du livre de Luc, les versets 1 à 10. Quand Jésus eut achevé tout son discours devant le peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un esclave, malade et sur le point de mourir. Un esclave qu'il appréciait beaucoup. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui quelques anciens des Juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé auprès de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment et disaient: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui nous a bâti notre synagogue. Jésus faisait route avec eux, et déjà il n'était plus très loin de la maison, quand le centurion envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pour cela aussi que je ne me suis pas jugé autorisé à venir jusqu'à toi. Mais dis seulement un seul mot, et mon esclave sera guéri. Ainsi moi je suis placé sous une autorité, et avec des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, à mon esclave fais ceci, et il le fait. En entendant ces mots, Jésus fut plein d'admiration pour lui. Il se tourna vers la foule qui le suivait et dit: « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Et de retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Nous allons chanter le cantique 151, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
Curieuse histoire de ce centurion étranger, représentant du pouvoir occupant, qui aime la nation juive, qui a fait beaucoup pour elle, qui aime son esclave, et qui a un grand respect pour Jésus et a confiance en lui. Et de son côté, Jésus n'a jamais vu ni l'esclave ni le centurion, mais il est plein d'admiration pour la foi de ce dernier. Ainsi, les dialogues et la guérison s'établissent par personne interposée et à distance. Et au-delà des barrières politiques entre occupants et occupés, des barrières sociales entre esclaves et hommes libres, tout le monde se respecte et s'apprécie. Et cette atmosphère de sympathie et de confiance est favorable à la guérison du malade. Étrange guérison à distance parce que l'usage était de toucher la personne malade directement, comme nous le voyons à bien d'autres endroits des évangiles. Et par exemple au verset suivant que je ne vous ai pas lu, qui raconte l'histoire de la résurrection du jeune homme Anaïm, eh bien, Jésus est conduit à toucher la civière pour que le miracle se produise. Mais ici, il s'opère plus simplement à la suite de paroles aimables échangées sur la route. On ne sait donc pas très bien qui est l'auteur de la guérison. Jésus ne rencontre ni le centurion ni le malade et ne dit qu'une seule phrase. C'est vraiment un miracle qu'une guérison puisse survenir dans de telles conditions étranges. Le centurion est un païen qui a du respect pour Jésus et qui aime son esclave, ce qui n'était certainement pas le cas de tout le monde. Et de plus, il a une forte sympathie pour la nation juive. Peut-être se convertira-t-il un jour pour grossir la masse des pagano-chrétiens, comme Luc, lui-même d'origine païenne, est venu grossir plus tard la masse des chrétiens. Il est assez rare dans les évangiles que soit décrite une telle estime réciproque entre païens et juifs, entre occupants et occupés. Nous sortons avec cette histoire du cadre strict du monde juif pour déborder, grâce à l'occupation romaine, vers d'autres nations. Nous ne nous rendons pas toujours assez bien compte que le christianisme ne se serait pas aussi facilement répandu dans le monde de la Méditerranée si la stabilité de l'Empire romain, ce qu'on a appelé la Pax Romana, et son étendue même n'avaient pas indirectement aidé à la propagation du christianisme. Quoi qu'il en soit, Luc aborde ici un sujet qui lui est cher et qui s'épanouira bien dans son second livre des Actes des Apôtres, mais qui traduit le fait que vers les années 80, le christianisme s'est déjà bien répandu dans le monde païen autour de la Méditerranée, à la suite des voyages de l'apôtre Paul, mais aussi d'autres missionnaires qui sont moins connus. Jésus, le Christ, est venu pour porter aussi la bonne nouvelle aux païens, à tout ce monde qui n'est pas spécialement juif, mais qui peut connaître aussi des sentiments de miséricorde et de compassion, comme ce centurion, qui cherche donc à consolider son espérance en se tournant vers plus de solidarité, alors que la religion romaine était surtout orientée vers le culte de l'empereur. Le texte nous dit que le centurion a entendu parler de Jésus. Mais qu'a-t-il entendu exactement? Nous ne savons pas. Certainement a-t-il été impressionné par quelques miracles et aussi par ce que Jésus disait aux foules. En effet, juste avant cette rencontre avec le centurion, Luc a placé le fameux sermon dans la plaine, que l'on appelle plus facilement le sermon sur la montagne. Ce sermon parle de la générosité envers le prochain, comme vous savez, et aussi de l'amour des ennemis, comme je vous l'ai lu tout à l'heure. Ceci paraît bien approprié à la situation, car les Juifs et les Romains sont ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, vient de dire Jésus. On peut avoir des ennemis parce que les peuples s'opposent, parce que les politiques l'exigent, parce que les chefs des peuples veulent agrandir leur empire. Mais individuellement, la charité est là pour poursuivre son œuvre en traversant les lignes de front, comme on en voit des exemples dans toutes les guerres. Ici, l'Évangile nous montre que l'on doit aimer ses ennemis, que l'on soit occupant ou occupé, oppresseur ou oppressé. Je voudrais revenir sur deux points particuliers qui me paraissent importants dans cette histoire. D'ailleurs, ces deux points sont très liés. Le premier, c'est l'importance de la parole. Le centurion n'a jamais vu Jésus, il ne cherche d'ailleurs pas à le voir. Au contraire, d'ailleurs, il dit à Jésus de ne pas s'approcher. Mais il en a entendu parler, nous dit le récit, et Jésus est déjà connu par sa parole. Le centurion a compris que cette parole est forte, puissante, plus que la sienne, lorsqu'il donne des ordres. Je dis à l'un, va, et il vient. Pour cet officier discipliné, Jésus a certainement une autre autorité lorsqu'il parle, plus forte que la sienne, qui est déjà grande. Cet homme puissant, doté de grands pouvoirs dans la cité, reconnaît qu'une puissance plus essentielle, parce que venant d'une autre nature, est celle de ce Jésus, qui n'appartient à aucune hiérarchie, à aucun ordre établi, à aucun pouvoir, mais prêche au contraire un renversement des hiérarchies. Le plus grand sera le plus petit, le premier sera le dernier. Ne nous occupons plus des puissants, des riches et des bien portants, comme on le voit encore dans une certaine presse aujourd'hui. Occupons-nous des esclaves, des pauvres, des malades et des petits. Donc, opposition entre une parole de soldat qui prêche l'ordre contre une parole de prophète qui prêche la justice, parole de pouvoir contre parole d'humanité, qui peuvent s'ajouter l'une à l'autre, comme dans ce récit, lorsqu'il s'agit de sauver les esclaves qui se meurent. Rencontre de deux paroles, celle du ciel et celle de la terre, qui permet cette guérison du plus humble des habitants de ce pays, probablement un étranger, sans beaucoup de papiers, mépris en affection par les représentants de ces deux pouvoirs, le politique et le spirituel. La parole est de Dieu, peut-être Dieu lui-même, comme dit le prologue de Jean, si elle permet aux ennemis de se reconnaître, de s'apprécier les uns les autres pour s'occuper des petits. Le deuxième point qui m'a intéressé et qui découle du premier, c'est la forme de la foi de ce centurion. Cette foi n'éprouve pas le besoin de rencontrer directement Jésus, elle est donc assez remarquable. D'aucuns seraient ravis de recevoir Jésus, de vivre un moment avec lui, de l'avoir pour eux, de le faire entrer dans leur intimité, de pouvoir dire « Il est venu me voir, il m'a choisi, voilà ce que je puis vous dire de sa part. » Je pense à cette fraction de nos coreligionnaires, qui n'est pas vraiment du côté libéral, mais qui existe quand même, qui dit « Ah ben j'ai rencontré Jésus tel jour, il m'a dit telle chose. » D'ailleurs, c'est aussi arrivé à Paul. Et l'expression paulinienne « être en Christ » ne signifie-t-elle pas être en une communion forte, une sorte d'intimité entre Jésus et la personne? Et d'ailleurs, l'apôtre s'exclame « N'ai-je pas vu le Christ ?» Ici, la position du centurion est très différente. « Je n'ai pas besoin de te voir. Ne te dérange pas. Ne perds pas ton temps à venir jusqu'à moi, à venir me toucher, à venir me convertir. Seigneur, ne te donne pas cette peine. Ne te tourmente pas. Je ne le mérite pas. Je suis trop petit pour me permettre de t'avoir pour moi. Réflexe d'humilité, dis seulement un mot, une parole. Dis seulement un mot. C'est le mot « logos » qui est employé ici. C'est plus qu'un mot. Le logos, c'est aussi la sagesse. C'est aussi l'esprit de Dieu. Dis seulement une parole de sagesse. Le centurion n'a pas besoin du Jésus en personne. Il n'a pas besoin de la personne de Jésus. Il n'a pas besoin de sa présence réelle, comme disait Calvin. Mais il a besoin de la sagesse qu'il prêche et qu'il représente. Là est sa foi qui a plus besoin d'entendre que de voir. Jésus reste donc éloigné du malade et du centurion et ne fait que reconnaître la foi du centurion, cette foi qui lui fait dire quelque chose comme cela. Je parle en donnant des ordres pour la vie courante, pour la Pax Romana, pour la paix dans la cité, afin de maintenir cette domination des Romains. Mais toi, tu parles en prêchant la générosité, le don de soi, le salut de tous les malades et de tous les blessés de la terre. C'est quand même autre chose. Parle encore. Dis seulement une parole de sagesse, et mon esclave sera guéri. Le centurion n'a donc jamais vu Jésus, et d'ailleurs celui-ci disparaît dans la nature, mais disparaît du récit, avant que l'on ait pu constater la guérison. Comme disait Jésus à Thomas l'incrédule, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et heureux sommes-nous aussi, si, comme le centurion, nous ne convoquons pas Jésus chez nous, nous ne l'accaparons pas, si nous nous contentons de sa parole de sagesse, celle qui sauve, parce qu'elle se soucie de tous ses esclaves, de notre civilisation. Amen.